7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
2020 devait être une nouvelle année record. Le CAC 40 s'apprêtait à verser 60 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires au titre de l'exercice 2019, un montant dépassant le précédent record de 2007. Sous la pression de la société civile et sous la menace du gouvernement français, les dividendes versés en 2020 devraient au final être divisé par deux. Faut-il voir dans cette inclinaison un signe précurseur d'un changement de modèle? Le mode de développement basé sur le progrès est-il compatible avec l'exigence d'égalité? Bonjour Cécile Duflot.
Bonjour Guillaume Erner.
Vous êtes directrice générale d'Oxfam France. On va évoquer ce rapport, mais d'abord un mot sur la Convention citoyenne et puis sur cet horizon de référendum dont vient de parler Frédéric Saïs.
Alors moi, ce que je trouve le plus intéressant de cette Convention citoyenne, c'est ce qui fait réagir certains, c'est-à-dire qu'elle a été composé de citoyens très divers, choisis pour représenter la diversité, la réalité de la diversité de la population française. Et quand on les fait travailler sérieusement sur ce sujet, avec des scientifiques, pendant des mois, ils aboutissent à la conclusion, qui est de toute façon une réalité, de l'urgence climatique et la nécessité de propositions assez radicales. Même si, en additionnant leurs propositions, et c'est normal puisque le champ avait été limité, notamment les questions budgétaires étaient écartées du champ du débat de la Convention citoyenne, on arrive qu'à atteindre 5% des objectifs qui sont les nôtres au regard de l'accord de Paris. Mais c'est passionnant parce que ça montre que l'argument essentiel de certains politiques était de dire la population n'est pas prête, les citoyens sont pas prêts, est totalement erroné. Je pense que les citoyens sont beaucoup plus prêts à ce changement de modèle en profondeur qu'un certain nombre de dirigeants politiques ou économiques. Et c'est tout l'objet de notre travail, justement, de documenter cette possibilité de faire autrement. Oui, on peut se déplacer autrement, on peut construire des bâtiments et on peut aussi rénover réellement ces bâtiments. En fait, ce modèle qui nous emmène dans le mur, à la fois court-termiste et qui utilise les ressources naturelles de manière déraisonnable, ça n'est pas le modèle unique. On peut faire autrement et il est plus que temps de le faire quand on voit qu'il fait aujourd'hui 38 degrés au pôle et que c'est 30 degrés de plus que les normales saisonnières et que la situation de la crise climatique, c'est maintenant une question vitale pour l'humanité.
À titre personnel, vous seriez favorable à un référendum ?
Je pense que ça peut être un bon outil, le référendum, notamment comme quand dans certains pays, on a l'habitude de l'utiliser. Il y a des pays comme la Suisse où c'est une pratique très régulière chez nous, c'est très particulier. C'est vrai que là, le choix de la proposition qu'ils ont faite, et je ne vais pas dire que je trouve que c'est une mauvaise idée, dans la période précédente de ma vie, j'ai été parlementaire et j'avais déposé une proposition de loi sur le fait de faire rentrer l'écologie dans la Constitution. Pourquoi ? Bah, il faut le dire, hein, parce que ça n'a pas été peut-être précisé par Frédéric Saïs, que souvent le Conseil constitutionnel a pris des décisions qui empêchaient des avancées écologiques au motif de leur inconstitutionnalité. Donc faire bouger la Constitution peut être utile. Mais c'est vrai que ça risque d'engager un débat de juristes.
L'ONG que vous dirigez en France, Oxfam, publie aujourd'hui un rapport sur les inégalités dans le monde. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de ces inégalités que vous dénoncez après avoir souligné leur importance au terme de ce rapport, Cécile Duflot?
Alors ce rapport, il porte sur les entreprises du CAC 40 sur les 10 dernières années, celles qui ont été pendant plus de 8 ans au sein du CAC 40, et elle montre que le partage des richesses, de la richesse produite dans ces entreprises continue d'être inégalitaire, qu'il s'est fait au profit très largement des actionnaires, au détriment des salariés, puisqu'il y a eu beaucoup de débats sur comment on partage les bénéfices d'une entreprise. Mais il y a aussi comment les salariés reçoivent une évolution de leur salaire. Et aujourd'hui, si on regarde l'évolution du salaire des PDG et celui du salaire moyen des entreprises, celui des PDG a été multiplié par 3. Pourquoi ? Parce qu'il y a maintenant plus que 20% de leur rémunération qui est une rémunération fixe. L'essentiel de leur rémunération, c'est une rémunération variable qui est basée sur la valorisation boursière de l'entreprise et qui donc induit une logique extrêmement court-termiste. Mais, deuxième point plus grave, ça, nous pensons amputer les capacités de ces entreprises du CAC 40 à engager une transformation écologique de leur activité.
Pourquoi ?
Parce que c'est de l'argent qui part en direction des actionnaires de façon très massive, y compris pour certaines entreprises quand elles ne font pas de bénéfices, c'est-à-dire qu'elles utilisent leurs réserves pour rémunérer leurs actionnaires dans une logique qui n'est pas une logique durable. C'est pour ça que notre rapport s'appelle des profits sans lendemain. On voit bien aussi après la crise du Covid que certaines entreprises qui avaient accumulé des bénéfices et des bénéfices pendant des années se sont retrouvées pourtant extrêmement fragiles et vulnérables face à la crise du Covid alors qu'elles auraient pu anticiper.
Donnez-nous des exemples de cette fragilité.
Il y a plusieurs exemples, mais un exemple qu'on connaît bien, une entreprise qui a vécu, alors on peut s'intéresser sur son modèle, mais qui est McDonald's, qui a évidemment vu ses restaurants fermer brutalement. Elle avait accumulé les bénéfices ces 15 dernières années, je crois, mais s'est retrouvée absolument sans réserve pour faire face à la crise du Covid, ce qui a abouti à des licenciements, pas en France, puisqu'il y a eu le chômage partiel, et on voit bien que dans les moments de crise, c'est la solidarité nationale qui prend en charge la situation. Et ça, c'est une bonne chose. C'est pour ça que nous plaidons aussi pour que les règles du jeu soient les mêmes pour toutes et pour mettre de la régulation vis-à-vis de ces entreprises. Parce que leur réponse, et elle n'est pas fausse, c'est de dire « Oui, mais dans la concurrence mondiale, nous nous retrouvons exposés si nous ne faisons pas ces choix de distribuer massivement des dividendes à nos actionnaires. » D'abord, il faut dire que la France est un des pays records, les entreprises françaises, pour la distribution de dividendes. Et là, à cet instant, je le dis aussi, je parle des grandes entreprises. Parce que ce modèle-là n'est pas du tout le modèle des petites entreprises. En revanche, elles occupent une grande partie des salariés, elles impulsent une dynamique, elles pèsent sur les régulations législatives. Et donc, nous plaidons pour que l'on pense justement à demain, que l'on conduise les entreprises dans une logique de transformation économique et écologique, pour aller vers une économie plus humaine et plus durable, finalement.
Cécile Duflot, vous incriminez dans ce rapport, un rapport signé Oxfam, donc l'ONG que vous dirigez en France, une propension à corréler le salaire des dirigeants aux cours de bourse, mais précisément les cours de bourse, aujourd'hui, ils ont chuté, pas tous. Certaines entreprises ont déjà repris une partie, en tout cas, de ce qu'elles avaient perdu au début de la crise de la Covid. Mais aujourd'hui, beaucoup d'autres sont dans une situation compliquée. Preuve que finalement, indexer les rémunérations sur les cours de bourse, ça n'est pas nécessairement voir monter ces rémunérations.
Ah ben pour l'instant, la réalité, c'est que justement, vous l'avez dit dans votre introduction, en pleine crise sanitaire et qui annonçait une crise économique très importante, un certain nombre d'entreprises ont continué à avoir comme objectif de distribuer massivement des dividendes et de verser des bonus à leur PDG. Alors que ce qui nous a semblé nécessaire, et effectivement, les responsables politiques ont bougé. Nous avons entendu Bruno Le Maire s'exprimer assez fermement en disant « Non, enfin, c'est pas possible. Il y a besoin que cet argent reste dans l'entreprise pour faire face à la crise. » Mais quand vous parlez de cours de bourse, la logique de la valorisation boursière, c'est aussi normalement la logique du résultat de l'entreprise. Aujourd'hui, on sait bien qu'il y a des logiques financières qui sont des logiques qui peuvent être décorrélées de l'activité économique des entreprises. Parce que on est dans un monde où on a développé ce qu'on appelle de la finance, qui est de la finance qui est détaché de la réalité économique des entreprises, au sens où on a des algorithmes qui permettent de placer son argent à tel ou tel endroit avec une vitesse de transaction très élevée, et on empêche, et c'est vraiment un des sujets qui nous préoccupe, il y a deux sujets qui nous préoccupent, la question de l'égalité et de la lutte contre les inégalités au sein des entreprises, notamment sur les questions salariales et en particulier entre les hommes et les femmes, mais aussi la pérennité de ces entreprises et leur capacité à faire face à la crise climatique. Quand une entreprise comme Total va évidemment devoir changer de modèle, parce que si nous continuons à extraire les fossiles dans le sol, c'est plus une catastrophe climatique que nous allons vivre, c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Il faut évidemment qu'elle engage sa transition. Et c'est là aussi que, parmi les autres propositions d'Oxfam, le fait de faire davantage participer les salariés aux organes de décision de l'entreprise, notamment au conseil d'administration, ça permettra de réfléchir à cette logique d'évolution de l'activité de l'entreprise à plus long terme.
Bon, mais alors justement, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se sont engagés, qui essayent d'être plus exemplaires. Alors il y a par exemple Danone, l'entreprise qui s'approche le plus de la parité au sein de ses instances dirigeantes. Il y a Pernod Ricard qui a un plafond de bénéfices redistribué aux actionnaires. Bref, il y a un certain nombre d'entreprises où ça bouge quand même, Cécile Duflot.
Ça bouge, mais d'abord, ce qu'il faut dire sur les dividendes, c'est qu'ils n'ont pas été divisés par deux. Ils ont baissé de moins 30 à moins 40%. Et ensuite, c'est vrai que ça bouge. Ça bouge pas assez vite. Ça bouge pas d'une assez grande ampleur. Sur la question de la parité, vous avez raison. Danone est la seule entreprise qui a la parité dans ses instances de direction. Aucune des autres ne l'a. Et aujourd'hui, aucune entreprise du CAC 40 présente aujourd'hui dans le CAC 40 n'est dirigée par une femme. Aucune. Donc on voit
bien. Il y en avait une.
Oui, il y en avait une, effectivement, c'était Solvay. Il y avait aussi une deuxième qui, elle, a été remerciée, Isabelle Cochère, qui a été remerciée. Et ça dit quelque chose, parce que en fait, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que des sociétés, une société globalement plus égalitaire, c'est une société plus robuste. Au travers de la planète, ces derniers mois et ces dernières années, on a vu, avec des formes différentes, que ce soit ce qui s'est passé au Chili, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui s'est passé, bien sûr, avant en Tunisie, au Liban ou récemment avec les Gilets jaunes, qu'une société où les inégalités augmentent est une société qui est minée de l'intérieur, où la tension est forte. Et ça se comprend assez naturellement, puisque c'est, j'allais dire, c'est pas notre mode de fonctionnement en tant qu'espèce humaine normale. Donc nous plaidons pour davantage d'égalité, de lutter vraiment activement contre les inégalités, et évidemment contre les inégalités femmes-hommes, parce qu'elles continuent de demeurer en termes de responsabilité, mais aussi évidemment, et on l'a vu très récemment avec ce qui s'est passé avec les infirmières, les aides-soignantes, des professions féminisées à plus de 70% qui sont parmi les moins bien payées. Les infirmières françaises sont 28e, je crois, au rang de l'OCDE.
Cécile Duflot, la défense classique de la finance consiste à dire que ces dividendes, pour partie, elles vont dans le budget de ménages qui ont placé leurs économies en prévision de la retraite en bourse.
Alors c'est tout à fait faux. Aujourd'hui, la majorité de ceux qui détiennent les actions ne sont pas des petits actionnaires. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'on dit que cette rémunération par les dividendes rémunère aussi le risque de perdre cet argent. Sauf que quand on le voit, qu'on traverse une période de crise comme celle qu'on vient de traverser, qui est-ce qui fait face au risque ? La solidarité nationale, par le chômage partiel, par les prêts garantis par l'État, c'est ce que nous vivons aujourd'hui.
En France ?
Et oui, en France, mais pas seulement.
Dans d'autres pays.
Au niveau européen, les États-Unis ont des politiques de soutien à leurs entreprises massives. Et ça ne me choque pas, au contraire. Nous pensons que la puissance publique, elle est là pour justement permettre de réguler. C'est la seule qui peut être assureur en dernier recours, finalement. Et donc, ça implique que dans les périodes fastes, on contribue à cette solidarité. Parce qu'en vérité, les actionnaires qui n'ont que la question du risque à la bouche, au moment où ce risque arrive, ils sollicitent la puissance publique. Et lorsque l'on vit ce que l'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire la crise sanitaire et d'une pandémie mondiale, on imagine ce que ça peut être d'une autre crise. Il y a aujourd'hui, à l'échelle mondiale, 20 000 milliards d'actifs qui sont carbo-intensifs, c'est-à-dire très émetteurs de carbone, mais très sensibles à ça. On peut imaginer une crise financière considérable, en plus de la crise écologique. Donc, à cet instant, ce pourquoi nous plaidons, c'est justement qu'on change ce modèle et surtout qu'on arrête de dire que ça n'est pas possible, que ça a toujours été comme ça. C'est faux. C'est faux dans l'histoire de l'économie mondiale, c'est faux dans l'histoire de la régulation des entreprises. Cette échelle de salaire complètement folle qu'on constate dans les entreprises, elle n'existait pas il y a 30 ans.
Mais changer de modèle, c'est un terme ou une expression. Qu'est-ce que vous voudriez concrètement ? Est-ce que, par exemple, c'est possible, je ne sais pas, de plafonner la part redistribuée aux actionnaires ? Enfin, si on le fait, il faut le faire évidemment à l'échelle mondiale. Est-ce que vous pensez être suivi ?
D'abord, on peut le faire évidemment à l'échelle mondiale. Et il y a quand même des chantiers aujourd'hui. Ils n'ont pas encore abouti. Mais par exemple, un chantier sur un autre sujet, qui est la fiscalisation pays par pays. C'est-à-dire de dire que toutes les entreprises doivent payer des impôts dans le pays où elles produisent, ce qui évitera une grande partie de l'évasion fiscale.
Sauf si elles en profitent pour partir ailleurs.
Mais c'est pour ça qu'il faut lutter contre les paradis fiscaux, y compris en Europe. Il y a aujourd'hui des pays comme les Pays-Bas qui organisent la concurrence fiscale en Europe, alors même que pour leurs entreprises aussi, ils demandent la solidarité européenne. Donc il faut absolument changer les règles. Mais ça c'est une question de volonté politique, c'est pas une fatalité. Vous avez parlé de plafonnement des dividendes. Oui, nous défendons l'idée qu'on puisse plafonner le montant distribué des bénéfices et qu'une grande partie de ce montant soit identifié et versé dans un fonds pour engager la transformation et la transition écologique des entreprises. Et c'est tout à fait possible. On a calculé qu'en 2018, si les entreprises avaient utilisé 70% des dividendes qu'elles ont versés, c'est-à-dire qu'elles ont gardé quand même 30%, elles finançaient 98% des besoins de transition écologique de leurs entreprises. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense qu'on peut avoir le sentiment d'être un peu écrasé par ces enjeux-là, de se dire c'est trop compliqué, puis on peut pas faire autrement. En fait, on peut. Et la puissance publique et l'État a aussi des capacités de régulation. Et oui, il faut que ces règles, elles soient les mêmes pour tout le monde. Mais déjà, si la France avance dans un certain nombre de sujets, elle l'a fait avec la taxe sur les transactions financières, elle peut le faire sur d'autres, ça donne un signal et ça montre aussi aux autres que c'est possible. Vous savez, quand les États-Unis ont décidé que tous leurs ressortissants ne pouvaient plus pratiquer l'évasion fiscale, ça a fonctionné. Voilà.
Le rapport que vous publiez est loué dans le journal L'Humanité. Il est au contraire vertement critiqué dans le journal L'Opinion, qui publie un dossier à charge contre Oxfam. Il y a notamment une tribune qui est signée par deux dirigeants d'un think tank libéral, l'Institut économique Molinari, qui explique par exemple que l'an passé, la rémunération des dirigeants du CAC 40 représentait 0,07% des dépenses de personnel de ces entreprises.
La question, c'est celle de l'écart. C'est celle de l'écart, c'est-à-dire que quand l'écart a été multiplié par 3 entre le salaire moyen et le salaire du dirigeant en 10 ans, quand il y a, en 1989, ce qui faisait scandale, c'est que le dirigeant de Peugeot gagnait 50 fois plus que les plus bas salaires et qu'aujourd'hui on est sur un rapport de 1 à 500, on voit bien qu'on ne regarde pas les choses pas avec les bonnes lunettes. Et cette question de l'équité au sein de l'entreprise, elle est importante aussi parce qu'on peut avoir le sentiment parfois que les gens qui travaillent, et c'est le signal qu'ont donné un certain nombre de ces entreprises, sont... un coup comme un autre. Alors qu'en fait, les entreprises, elles sont riches aussi de leur richesse humaine. Elles sont riches de leurs salariés. Et que si on ne prend pas en considération cette situation-là, on aboutit à des situations de tension sociale très fortes. Parce que chacun de ces personnes qui travaillent a un cerveau, réfléchit, regarde, a les yeux ouverts.
Et puis, enfin, l'ONG que vous représentez, Cécile Duflo, met à la porte un tiers de ses effectifs.
C'est faux. Je suis désolée, mais c'est vraiment faux. Comme vous êtes journaliste, moi, je veux bien répondre sur les faits. Et d'ailleurs, comme on a fait l'objet souvent d'attaques ces derniers temps à Oxfam, on a publié sur notre site une page que vous pouvez retrouver sur Oxfam.
L'opinion n'est pas le seul organe de presse à dire qu'il
y a... Oui, mais sauf que c'est faux. En fait, il y a la réalité et les faits. Les faits, c'est que nous avons décidé de fermer 18 bureaux pays dans le monde. Parce que, comme d'autres ONG, comme presque toutes les ONG, à cet instant, je voudrais dire aux gens qui sont solidaires, toutes les ONG, et pas seulement Oxfam, ont besoin de vos dons, parce que la crise du Covid-19 a été extrêmement violente pour plein d'organisations. Donc, nous fermons 18 bureaux pays, ce qui, en anglais, affected, donc concerne 1500 personnes, mais c'est des gens qui avaient un contrat qui allait s'arrêter. Ça va durer sur plusieurs années. D'autres personnes vont changer de pays. C'est absolument pas 1500.
Quel est l'effectif qui est effectivement supprimé?
C'est difficile de le dire entre maintenant et aujourd'hui, parce que d'ici 3 ans, c'est-à-dire la fin de certains projets, peut-être que les choses auront changé. Simplement, notre responsabilité, c'est de faire face à des difficultés financières. Et à cet instant, je le redis, Oxfam ne fait pas de dividendes, ne fait pas de bénéfices. Nous sommes une ONG, nous vivons de la générosité du public. Sans les dons, évidemment, on est dans une situation difficile. Mais ce que je trouve assez désagréable parfois, c'est que les attaques sont justement pas basées sur des faits. Et nous, on est tout à fait, on demande la transparence des entreprises, on s'oblige à la transparence. Donc sur notre site, je le redis, sur la page de notre organisation, vous trouverez toutes les réponses à ces différents points en toute transparence, que c'est légitime qu'on nous demande des comptes, mais pas qu'on mente à notre sujet. Ensuite, si vous me permettez de dire qu'un journal qui, chaque année, au moment où on sort un rapport, fait à peu près les mêmes articles, et que c'est un journal qui est possédé, et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, par les principaux actionnaires du CAC 40 français, il n'y a pas de grande surprise. Moi, je préfère qu'on débatte sur le fond.
Un dernier mot sur ces propositions consécutives donc à ce rapport, Cécile Duflo.
Les propositions, c'est de dire on peut aller vers une économie plus humaine en régulant son mode de fonctionnement. Donc, encadrement des rémunérations de 1 à 20 entre le salaire médian et le salaire le plus élevé, ce qui n'est quand même pas absurde. Pour info, avant qu'on nous pose la question, chez Oxfam France, entre le plus bas salaire et le plus haut salaire, c'est 3,6. Voilà, comme ça les choses sont bien claires. Et on ne demande pas, parce que cette échelle-là, qui est une échelle dans une ONG, s'applique partout. Mais on dit que 1 à 20 entre le salaire médian et le salaire le plus élevé, c'est un bon chiffre. Réserve d'une part des dividendes à la transformation écologique des entreprises. Ça rejoint une proposition qui a été faite par la Convention citoyenne sur le climat, parce que en fait, la question, c'est de savoir à quoi on affecte l'argent que l'on gagne aujourd'hui, que ce soit l'argent public, des impôts, qu'est-ce qu'on en fait, ou l'argent des entreprises, l'argent des bénéfices des entreprises. Et pour nous, la priorité, c'est de s'attaquer à cette crise qui n'est plus une crise, qui est une catastrophe qui nous menace, qui est la catastrophe climatique, la catastrophe écologique, et que c'est un impératif, et qu'aujourd'hui, avoir des mesures radicales, c'est être raisonnable.